Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Ce soir, on vous propose d'ouvrir les barreaux des prisons et de s'interroger sur le temps passé à l'intérieur de ces barreaux, à l'intérieur des murs de prison. Tant de temps, c'est le thème des journées nationales de la prison qui se sont ouvertes chez nous aujourd'hui et qui visent à mettre en lumière pendant une semaine la problématique de la détention. Que fait-on du temps passé en prison? Comment faire pour que ce temps ne soit pas du temps perdu, mais du temps gagné pour se reconstruire en avenir? Comment améliorer la réinsertion des détenus? Une réinsertion qui passe encore trop souvent aujourd'hui au deuxième, voire au troisième ou quatrième plan. Tant de questions que nous allons explorer ce soir avec mes trois invités. Tout d'abord, Séverine Clinaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez à la CAAP, CAP, à savoir la concertation des associations actives en prison. À vos côtés, Anne Fivet, directrice juridique du Centre d'Action Laïque, et vous travaillez depuis de nombreuses années sur la question de l'emprisonnement. Et enfin, Patrick van der Wecken, vous êtes délégué de la régionale namuroise du CAL et surtout conseiller moral laïque dans plusieurs prisons de la région namuroise. Bonsoir à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Anne Fivet, avant de parler de cette question de la réinsertion, de la question du temps, un mot d'introduction sur les Journées nationales de la prison. C'est la deuxième édition cette année. Dans quel contexte sont nées ces journées? Surtout, quels sont les objectifs de ces journées?
C'est une initiative qui a été prise par le Conseil central de surveillance pénitentiaire, qui est l'organe indépendant chargé du contrôle, je dirais, des conditions de détention des personnes, pour faire bref. Le Conseil central de surveillance pénitentiaire a amené un certain nombre d'associations qui travaillent dans les prisons, qui travaillent à l'extérieur des prisons, mais qui sont toujours des associations qui œuvrent, je dirais, pour le respect de la dignité des personnes détenues, pour le respect des droits des personnes détenues. Et donc, ce conseil a demandé à une série d'associations de se mettre en chemin, en route, pour organiser ces Journées nationales de la prison. En 2014, la thématique était la vie au quotidien dans les prisons. En 2015, comme vous l'avez souligné, c'est la question du temps passé en prison qui a été retenue pour ces Journées nationales de la prison.
Avec vraiment l'objectif d'interpeller la population ou d'interpeller le politique?
Voilà, donc c'est vraiment une semaine d'information et de réflexion qu'on veut pouvoir mener avec, je dirais, les citoyens en général. Donc c'est vraiment aller vers un public le plus large possible et essayer en tout cas de créer des liens, je dirais, entre ce qui peut se passer dans les prisons et la situation telle qu'elle est ressentie, vue, je dirais, par l'ensemble de la population. Parce que bien souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment des stéréotypes qui ont la vie dure. C'est-à-dire qu'on pense effectivement, souvent la population se dit que ce sont des prisons 5 étoiles, des prisons gruyères. Et donc on essaye vraiment, à travers ces journées-là, de faire prendre conscience des conditions réelles de détention que l'on connaît dans la plupart des prisons actuellement.
Alors, on reviendra plus en détail à la fin sur le programme de ces Journées nationales, mais venons-en au thème finalement de cette année, qui est cette question du temps. Et ce temps passé, on le disait, pour pourquoi pas, mais j'allais dire pour surtout faire de la réinsertion. Alors, Séverine Clinaz, avec la CAP, vous avez réalisé un rapport sur l'offre de services faite aux personnes détenues dans les établissements wallons et bruxellois. Alors, l'offre de services, c'est quoi? C'est l'enseignement, les activités culturelles, sportives?
Voilà, exactement. Donc, ce sont toutes les compétences des entités fédérées au sein des prisons qui ont la compétence au sens large de l'aide à la réinsertion sociale des détenus. Alors, il s'agit de l'aide psychosociale, de la formation, de l'enseignement, de la culture, du sport, la promotion de la santé, la prévention ou encore de la réinsertion socio-professionnelle des détenus. Donc ce rapport s'articule autour de ces différents chapitres.
Alors on voit qu'il y a quand même des chiffres dans ce rapport qui sont assez alarmants. Alors je prends juste un exemple au niveau de la formation. Vous dites au moins un tiers des détenus seraient analphabètes aujourd'hui. Et pourtant sur 5795 détenus, il y a seulement 354 places dans des cours d'alphabétisation. Ça c'est un des chiffres très interpellant du rapport.
Oui, exactement. Et bon, il y a évidemment des carences en termes de formation et d'enseignement, mais tous les secteurs sont concernés, bien évidemment. Si vous voulez des exemples, eh bien, en matière d'aide psychosociale, on sait très bien que les détenus ne supportent pas vraiment les conditions d'incarcération, donc il leur faut en tout cas une aide psychosociale, en tout cas des entretiens psychologiques, des entretiens sociaux. Et pourtant, dans la plupart des prisons, même s'il y a un service d'aide psychosociale, les services sont complètement saturés. Par exemple, prenons une illustration au niveau des prisons de Nivelles et d'Ittre. Eh bien, il n'y a qu'un travailleur temps plein pour assurer le suivi psychologique des détenus. Donc, pour 720 détenus au total.
Un travailleur temps plein pour 720
détenus. Oui, et ce qui fait des listes d'attente d'environ un an.
Voilà. Or, on sait que finalement, cette aide psychosociale, elle peut aussi aider le détenu à justement mieux vivre ce temps passé en prison et du coup aussi mieux vivre l'après-prison.
À reprendre le pied, exactement, et avoir un soutien aussi qui se passe au niveau du relationnel aussi, parce qu'on sait très bien que tisser du lien en prison, c'est extrêmement important en vue de sa réinsertion, en vue de la réinsertion sociale des personnes détenues.
Alors, Patrick van der Weken, vous, donc on l'a dit, vous êtes conseiller moral en prison. Est-ce que vous, votre premier objectif, c'est plutôt d'écouter les détenus plutôt que vraiment de les encadrer dans leur réinsertion? Mais est-ce que quand ils vous parlent de leurs préoccupations, cette question du temps passé, du manque d'activité, ça ressort?
Oui, bon, comme vous l'avez dit, préoccupation première, c'est d'écouter, soutenir, accompagner, orienter. Donc, c'est aussi connaître bien les rouages et tout ce que les services peuvent proposer à la personne détenue. Et c'est vrai qu'un détenu qui se trouve en prison, que je rencontre, sont souvent à dire que c'est d'abord gérer le temps qui passe en prison, mais au-delà, c'est aussi préparer la réinsertion. Donc la réinsertion ne se fait pas à la prison, elle se prépare. Donc c'est vraiment quand ils sont à l'extérieur. Et il y a ce temps qui devrait être utilisé pour permettre aux détenus de viser sa sortie avec un projet. Donc il faut savoir aussi qu'il y a une loi de principe qui est de 2005, donc elle a plus de 10 ans. Et cette loi de principe prévoit notamment qu'il y ait un plan individuel pour la personne. Donc, il devrait, avec ce plan, pouvoir travailler plus finement avec un interlocuteur psychosocial à sa réinsertion. Et ça, c'est une chose qui n'est pas encore d'application au sein des prisons.
Oui, on va revenir à... Je vois qu'Anne Fivet veut réagir sur cette question déjà.
Oui, en fait, par rapport à cette question du temps, c'est vrai que je pense qu'il y a des injonctions contradictoires en fait, qui existent aujourd'hui dans l'organisation de la prison aujourd'hui, parce que quelque part, on ne pousse pas du tout la personne détenue à aller vers l'autonomie, à aller vers un projet de vie d'émancipation. On le place dans une situation où il ne décide rien, que ce soit le moment où il se lève, le moment où il mange, le moment où il va à une activité qui lui est proposée. Il ne décide rien quant à son organisation du temps. Donc je pense moi vraiment qu'il y a là une incompatibilité, enfin je vais peut-être être très peut-être excessive en disant ça, mais je pense qu'il y a vraiment un problème qu'on doit pouvoir mettre à plat, parce que c'est vraiment très contradictoire de demander à la fois à une personne détenue d'élaborer son plan de détention et puis ensuite de faire son plan de réinsertion sociale au moment de sa sortie, et puis de le placer dans une situation qui est totalement, c'est mission impossible, je dirais, quelque part, pour moi.
Mais du coup, vous en parliez, donc parlons, approfondissons peut-être cette question du plan de détention. Ce plan de détention, normalement, donc le détenu est censé élaborer ce plan de détention, est censé être responsable lui-même de ce plan de détention. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui, Séverine.
Oui, ce n'est pas le cas. Et bon, pourtant, ça devrait être le dispositif, l'élément essentiel autour duquel devrait s'organiser toute la détention. Parce que ce qui est intéressant dans ce plan de détention, c'est qu'il est individualisé. Donc, il est adapté aux antécédents judiciaires, au profil social et aux besoins du détenu. Et à l'heure actuelle, on est loin du compte. À l'heure actuelle, on ne propose pas de plan individualisé au sein des prisons.
Oui, et ce plan de détention, donc vous dites qu'il faut absolument le mettre en place. C'est dans les recommandations que vous faites. Il faut que, concrètement, on puisse permettre aux détenus d'élaborer son plan de détention.
Oui, c'est cela.
Mais sur ça, par contre, Patrick van der Weken, vous parliez d'autonomie, etc. Vous n'êtes pas nécessairement d'accord, parce que vous estimez que c'est faire porter peut-être trop de responsabilités sur l'épaule du détenu.
Ah, c'est faire porter la responsabilité sur les épaules du détenu et de ses proches et de sa famille. Parce qu'il y a sa sortie, normalement, dans la meilleure des situations, ce qui est le cas pour 60% à peu près des personnes, où il y a une famille, un projet concret qui peut se mettre en place. Il y a quand même 40% des détenus qui se retrouvent comme ça, sans vraiment de plan bien précis à la sortie, et qui vont errer, qui vont peut-être retomber sur des pistes qui les ont amenés en prison. Donc ça, c'est un des gros problèmes, c'est de ne pas viser nécessairement, lorsque la personne sort, avoir un plan bien établi, bien clair.
Oui, moi je voudrais répondre. C'est vrai que bon, la personne, une personne, quand elle sort de prison, n'est pas totalement maîtresse de sa réinsertion, et sa réinsertion va évidemment dépendre de la place que la société est prête à lui accorder, et d'où l'intérêt aussi de sensibiliser les organismes qui ont un rôle essentiel dans le processus de réinsertion, comme les organismes de recherche d'emploi, les organismes de recherche de logement ou de formation socioprofessionnelle. Donc c'est aussi sur ce plan de la sensibilisation qu'il faut agir, et aussi de la société civile dans son sens large.
Est-ce que, Patrick Van Der Weken, quand vous rencontrez des détenus, les aider à s'autonomiser, à essayer de prendre, enfin, voilà, d'élaborer peut-être ce plan de détention, si ça fait partie de votre rôle, c'est des choses dont vous discutez avec eux?
Mais je dis corollairement à ce que l'on fait, oui, parce qu'il y a une remise en question. Donc il y a revenir faire un peu marche arrière pour repartir sur une piste qui va peut-être l'émanciper, en tout cas va le faire découvrir d'autres chemins qui, on espère pour lui, être plus porteur d'avenir. Donc c'est vrai que ça se fait d'une manière indirecte par petites touches successives. Bon, on est amené à le rencontrer régulièrement, donc il y a une relation de confiance qui s'établit, donc il s'ouvre à nous, et alors on détecte mieux vraiment chez la personne ses ressources, ses capacités et ses valeurs aussi. Donc ça fait partie de notre rôle, partir de choses chez l'individu qui va le mobiliser, qui pourra vraiment lui faire voir l'avenir sous un an qu'il n'a peut-être pas pu lui-même voir seul.
Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale. Après, on reviendra sur différents problèmes pointés, différentes recommandations qu'on pourrait faire pour améliorer cette réinsertion. Je vous propose d'écouter une chanson d'R.E.M., Everybody Hurts.
Day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much, slide.
sommes de retour après cette chanson de R.E.M. qui illustre bien cette souffrance dont sont victimes parfois certains détenus. Et on a parlé de l'aide psychosociale, mais on a aussi des activités culturelles, sportives qui peuvent être mises en place, qui peuvent aussi les aider à dépasser finalement cette souffrance. Et là aussi, il y a des manquements aujourd'hui.
Oui, et justement, les activités culturelles en particulier souffrent d'un grand manque de légitimité parce que, bon, elles sont souvent vues comme un luxe et elles ne sont toujours pas toujours appréciées par les agents pénitentiaires qui voient en ces activités un surcroît de travail. Pourtant, c'est vrai qu'elles peuvent être un outil de premier ordre pour un changement de vie et pour un réapprentissage des règles. Et ça, c'est extrêmement important, oui.
Alors c'est vrai qu'on parlait des activités sportives, là je voyais dans votre rapport, à Forêt par exemple, il y a 619 détenus et aucune activité sportive encadrée.
Oui.
Donc c'est un exemple parmi d'autres pour montrer que ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Et ça a été désinvesti finalement de certaines associations, de certaines entités fédérées.
Oui, bien sûr, donc c'est l'un des constats, en tout cas l'une des recommandations de notre rapport, c'est que de nombreux organismes d'intérêt public qui, à l'époque, avaient organisé quelques activités en prison sont à l'heure actuelle absents. Pour citer un exemple, celui de l'ADEPS, qui est censé organiser et promouvoir le sport pour tous, mais malheureusement pas en détention.
Oui. Alors l'argument qui est souvent sorti par les politiques, c'est le manque de moyens. Voilà, il n'y a pas assez de moyens pour organiser tout ça. Est-ce que vraiment c'est le cas, Anne Fivet? Est-ce qu'il y a un problème de moyens quand même derrière?
Alors, bon, c'est vrai que maintenant, avec la communautarisation d'un certain nombre de matières, donc là, il va y avoir notamment les maisons de justice qui passent maintenant aux communautés. Donc, il faudra voir effectivement quels sont les moyens que la communauté française va dégager par rapport à l'accompagnement, l'encadrement des personnes détenues. Donc ça, c'est un enjeu et on espère évidemment que la communauté française va prendre les choses en main, ne va pas laisser de côté en tout cas cette compétence, c'est tout ce qu'on espère. Mais quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, je pense qu'il faut vraiment, enfin moi je trouve qu'il faut se mettre porté en faux par rapport à cette affirmation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, le ministre Koen Gaens a sorti les propositions du troisième master plan. Ceci dit, en passant, on y perd vraiment son latin entre les master plans 1, 2, 3, parce que quand on voit la déclaration gouvernementale, on voit que le gouvernement dit qu'il va évaluer le troisième master plan. Alors ici, quand notre ministre dit « je mets sur la table le troisième plan », enfin, c'est vrai que c'est à l'image, évidemment, de toute cette ce flou quant au projet même de nouvelles prisons. Mais il y a de l'argent qui est consacré à la construction de nouvelles prisons. On en a construit trois jusqu'à présent sous des formules, ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, qui, pour les pouvoirs publics, permet dans un premier temps de ne pas devoir engager directement les dépenses, mais qui, in fine, vont de toute façon coûter pas mal d'argent à la collectivité, aux citoyens. Donc, il y a de l'argent qui est consacré et des choix sont faits. On continue à étendre la capacité carcérale. On ne dit pas à un moment donné stop, on ne construit plus. Et donc, on est de nouveau dans une situation aussi très contradictoire, puisque notre ministre de la Justice dit qu'il veut absolument réduire la population carcérale, qu'il a mis en place, c'était sa prédécessrice, Annemie Turtelbaum, qui a fait en sorte qu'il y ait des peines autonomes, surveillance électronique, probation. Mais ceci dit, c'est dans la volonté actuelle de l'ensemble des gouvernements de mettre une série d'alternatives aussi en place. Mais en même temps, à côté de ça, on continue à vouloir étendre le parc carcérale. Donc pour la prison, le projet de construction de la prison de Haren, il y a des estimations qui tournent autour de 3 milliards d'euros pour l'ensemble des coûts d'utilisation de maintenance pour cette prison-là sur 25 ans, puisque dans le cadre des partenariats publics-privés, les pouvoirs publics doivent payer une redevance annuelle. On l'estime à 3 milliards d'euros pour cette prison uniquement.
Oui, donc c'est de l'argent qu'on pourrait investir dans d'autres technologies. Et par exemple, Patrick van der Wecken, des techniques comme le bracelet électronique seraient plus intéressantes selon vous, voire des maisons aussi plus petites telles qu'il existe des projets pilotes en Flandre?
Je vais répondre à votre question, mais je reviens un peu sur les moyens. Moi, je veux bien faire le pari que dans les prisons, moi, un chef d'établissement vous dira qu'il est un peu en deçà du cadre qu'il faudrait pour organiser la prison, mais que si on mettait peut-être un animateur, un éducateur, de personnes vraiment de terrain proches du souci des détenus pour développer des activités, ben ça améliorerait et ça serait au bénéfice de tout le monde. Mais ça, ce n'est pas toujours évident à faire passer au sein du corps des agents pénitentiaires. Donc voilà, ça, je voulais souligner.
Ils sont récalcitrants finalement.
Mais c'est la sécurité. Je pense que dès qu'on envisage d'autres choses pour approcher un petit peu le quotidien, pour permettre aux détenus de sortir de sa cellule, d'aller vers des activités, mais activités qui pourraient pour lui être plus porteuses, pourraient plus le mettre en mouvement, eh bien, on entend qu'il y a un repli, oui, mais c'est toujours la sécurité qui empêche, qui semble empêcher un petit peu d'aller vers autre chose. Donc, alors on peut poser la question par rapport aux alternatives. Ben oui, il y a le bracelet, par exemple, mais je pense que c'est une liberté virtuelle, le bracelet. C'est enfermer autrement. Et c'est aussi mettre les proches, la famille, dans des conditions qui sont très difficiles. C'est mettre le détenu dans des conditions qui ne sont pas compatibles à la réalité dans la société. Prenez l'exemple d'un détenu qui a la chance d'avoir retrouvé un emploi. Il va être empêché d'arriver à l'heure parce qu'il y a le trafic qui ne lui permet pas. Vous savez qu'en Belgique, il y a parfois des retards d'un transport en commun, mais c'est un système très rigide. On va lui laisser passer une fois un retard, deuxième fois, il risque de revenir en prison. Donc ça, l'approche du bracelet électronique n'est pas vraiment adapté à la réalité de ce que la société. Et donc, aussi, sortir, aller promener son enfant, si votre cave ne le permet pas. Vous avez une bonne cave, vous allez dans votre cave chercher une bouteille de vin, vous ne pouvez pas y descendre parce que ce n'est pas dans le périmètre. Et à votre enfant qui est dans le jardin, on n'a pas permis à ce que vous sortiez dans le jardin, vous ne pouvez pas aller jouer avec votre enfant. Ça, ce sont aussi les réalités du bracelet. Donc, une grande rigidité qu'il faudrait essayer un peu de revisiter.
Et je dirais aussi la question de l'accompagnement de ces personnes-là, parce qu'elles sont souvent laissées livrées à elles-mêmes aussi. Donc, on repose le problème de la réinsertion de toute façon.
Séverine Guinness, d'autres alternatives qui sont pointées, ou en tout cas d'autres recommandations, d'autres améliorations?
Oui, tout à fait. Mais c'est une autre des recommandations principales, c'est de renforcer déjà les dispositifs qui sont en place. Donc, ce que je veux dire par là, c'est donner davantage de moyens financiers et humains aux associations actives en prison et à la sortie de prison, qui sont parfois complètement désœuvrées et démunies par rapport à des situations qu'elles n'ont pas voulu. Par exemple, on parle souvent des blocages au sein des prisons, des nombreuses grèves des agents pénitentiaires. Et bien, durant ces grèves, les associations sont empêchées d'accès au sein des établissements. Donc, elles ne peuvent vraiment remplir leur mission. Donc, c'est également agir sur le partenariat entre l'État fédéral, qui gère justement cet aspect sécuritaire, et le partenariat entre le fédéral et les entités fédérales. Donc déjà, ça ne nécessite pas d'argent. Ce sont des solutions assez simples, mais elles sont sur le papier. Il faut les mettre en pratique.
Dans les pistes aussi qui sont sur la table, et d'ailleurs dans ce fameux master plan de Koen Gaines, on voit qu'il y a des choses qui s'amorcent là-dessus. C'est sur ces fameuses maisons de transition, des maisons Huizen, comme des maisons de détenus, comme ils les appellent en Flandre. Est-ce que ces petites maisons de détention, qui sont quand même des prisons, vous avez l'impression peut-être, Patrick, que ça pourrait aider à la réinsertion d'avoir des prisons plus petites, qui sont plus à taille humaine?
Mais je pense que c'est une alternative qui est porteuse d'avenir. Déjà, le fait de se sentir plus responsable, avec une responsabilité, de dire je peux faire davantage de choses parce qu'on me donne confiance, que je vis plus près de la société, plus près d'un cadre de vie que je vais bientôt retrouver. Donc ça me laisse penser que justement, pour un individu qui a envie de retrouver vraiment sa capacité à faire les choses, c'est une bonne proposition. Mais je voulais revenir par rapport à ce que souhaiteraient les détenus. Bon, moi, je rencontre des détenus qui me disent, déjà au sein de la prison, certes, il y a des activités, mais ce sont des activités qui souvent sont des activités occupationnelles, qui sont peu gratifiantes, peu qualifiantes. C'est déjà au sein de la prison de faire des ateliers qui pourraient permettre à un détenu d'apprendre un métier vers des créneaux qui sont porteurs, avec des débouchés concrets en termes d'emploi. Et pourquoi pas dans chaque prison, il y a des prisons modernes maintenant, où il y a des ateliers, il y a des surfaces qui sont dédiés aux activités plus manuelles, pourquoi pas dans chaque établissement y mettre un centre de formation plus spécifique dans lequel on peut orienter le détenu pour apprendre un métier. Donc ça pourrait se faire moyennant peut-être peu d'investissement, un peu de moyens, mais qui porterait vraiment déjà un détenu vers une possibilité de retrouver un emploi à la sortie.
Mais là aussi, moi, je voudrais rajouter quand même qu'actuellement, il n'y a pas très très longtemps, on a modifié la loi de principe et on a retiré la qualification de contrat de travail pour le travail qui est organisé dans les prisons. Donc, c'est un recul en arrière. Alors, comment effectivement dire on donne une dignité aux personnes si on ne leur donne même pas ce statut de travailleur à part entière, avec la possibilité de cotiser à la sécurité sociale, de cotiser à leur pension quand ils vont sortir de prison. Donc là, il y a aussi des choses à revoir. Donc espérons que le ministre de la Justice, en tout cas, quand il décidera de revoir, puisque c'est dans les intentions du gouvernement de revoir la loi de principe, qu'il puisse au moins revenir sur cette vraiment dommageable disposition légale qui a été introduite.
Espérons qu'il nous écoute, du coup. Alors je vous propose juste de terminer l'émission en mettant en avant quelques activités qui sont organisées dans le cadre de ces journées nationales de la prison.
Comme on l'a dit, c'est la deuxième édition cette année-ci, et ce qui est vraiment très très encourageant, c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité, je dirais, dans les acteurs qui vont intervenir. Il y aura toute une série d'activités, ça va de la projection de documentaires, dont un qui est projeté déjà à plusieurs qui va être projeté durant cette semaine à plusieurs reprises. C'est le documentaire 9999 qui a été filmé dans une annexe psychiatrique à Merckplatz et qui est vraiment extraordinaire, je trouve, comme documentaire, parce qu'il donne vraiment bien cette perception du temps infini, je dirais, qu'on peut sentir, je dirais, surtout dans les annexes psychiatriques. Alors, il y aura des expositions d'œuvres de détenus, il y aura des débats, des tables rondes, des témoignages écrits de personnes détenues aussi, notamment la régionale de Namur. Il y aura une pièce de théâtre qui sera présentée, des animations scolaires Donc ça va se passer dans des lieux très 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 diversifiés aussi, que ce soit des lieux universitaires, places publiques, cinéma, palais de justice, tribunal de première instance. Donc c'est vraiment
on voit que c'est très très large. Peut-être juste, vous voulez juste rajouter peut-être Séverine Glaise, un événement que vous vouliez faire sortir, ou Patrick aussi, chacun un événement chacun qui vous tient à cœur.
Oui, alors deux événements qui se dérouleront au centre culturel de Huy. Il s'agit de l'exposition itinérante Miroir de l'âme. En fait, c'est une exposition d'œuvres des détenus réalisées dans les ateliers artistiques dans les différentes prisons de Wallonie de Bruxelles. Et en même temps, dans le même centre culturel, on aura aussi l'exposition de toiles de Karine Leroy sur le thème de la prison.
Et vous, peut-être, Patrick, juste relever quelque chose.
Oui, Namur, je relève de choses. Donc, il y a une table ronde qui s'organise sur 3 ateliers qui proposera des pistes de réflexion autour des thématiques du détenu confronté au maintien des relations avec sans travail, avec activité, sans activité, sans formation, du point de vue aussi du travailleur libre dans un lieu d'enfermement et aussi de selon le statut de la personne, qu'elle soit prévenue, condamnée ou internée. Et il y aura, comme Anne l'a dit, donc une exposition qui sera la reconstruction d'une cellule avec tous des témoignages écrits que des détenus m'ont confiés. Donc pour l'instant, j'ai une vingtaine de témoignages et ça viendra vraiment soutenir l'exposition.
Et toutes les informations sont disponibles sur un site internet
www.jnp-ndg.be.
Parfait.
Je voudrais repréciser quand même aussi que ça s'étend maintenant plus en Flandre aussi, et donc ça c'est très positif.
Ben voilà, donc ça fera pas mal d'activités auxquelles on invite évidemment le public, on invite le public à s'intéresser à cette thématique. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation, merci à vous de nous avoir suivis et belle soirée à tous.